VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Guinée, des milliers de protestataires manifestent ce jeudi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Rassemblement organisé à l'appel du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui a préconisé une marche aujourd'hui contre la présidence à vie, non seulement dans la capitale, mais aussi le reste du pays. Le FNDC pilote le mouvement de contestation qui a fait une dizaine de morts ces deux dernières semaines. Et la campagne anti-Alpha Condé a pour origine le projet prêté au président sortant de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution nationale qui l'empêche actuellement de concourir à un troisième mandat. Le FNDC, une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, réclame par ailleurs la libération de ses dirigeants, condamnés mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme pour appel à troubles publics. Beaucoup de manifestants se sont vêtus de rouge aujourd'hui, comme l'a demandé le FNDC, pour exprimer notamment leur colère face à la répression de la contestation par les autorités. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Niger, toujours pas de nouvelles du maire de Kabalewa, une commune de la région de Difa dans le sud-est du pays, et de son épouse, kidnappée le 19 octobre par le groupe extrémiste Boko Haram. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon un élu local qui a voulu garder l'anonymat, le maire Abari El Hadj Daouda et son épouse ont été enlevés dans la nuit du 19 octobre par des éléments de Boko Haram qui ont fait irruption dans leur domicile. Le gouvernorat de Difa a confirmé ces enlèvements et a souligné que les ravisseurs sont des présumés membres de Boko Haram. La région de Difa, proche du Nigeria, est le théâtre depuis 2015 d'attaques meurtrières d'un groupe djihadiste Boko Haram. Selon les chiffres officiels, il y a eu entre janvier et août cette année 173 attaques qui ont fait 202 morts, 60 blessés et 239 personnes enlevées. En juillet 2017, 39 personnes, dont 33 femmes et 6 garçons, ont été enlevées en Galewa, un village situé à quelques kilomètres de la commune d'Okabalewa. En plus de l'insécurité, Difa est confronté à de graves inondations provoquées par une crue de la rivière Komadougou-Yobé qui sert de frontière avec le Nigeria.
La lutte contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et les pays voisins de la région des Grands Lacs. En RDC, une réunion regroupant de hauts responsables militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie est en cours ce jeudi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'Est, pour évoquer les problèmes d'insécurité dans la région. Une déclaration officielle sera faite à l'issue des travaux selon les organisateurs de la réunion. Depuis plusieurs jours, des documents portant la signature du chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala, sur l'organisation des opérations militaires conjointes avec les armées rwandaises, burundaises, ougandaises et tanzaniennes circulent sur les réseaux sociaux. Selon ce document, daté du 2 octobre, les dites opérations visent l'éradication des groupes armés étrangers et nationaux dans l'est de la RDC. Une première réunion sur le même sujet s'était tenue du 13 au 14 septembre, également à Goma. Afrique australe maintenant, élection au Botswana. La population attend avec impatience les résultats des élections générales très disputées de la veille, qui pourraient mettre fin au règne sans partage du parti BDP au pouvoir depuis l'indépendance du pays il y a plus d'un demi-siècle. Le gouvernement a commencé aujourd'hui à publier les premiers chiffres sur son compte Twitter, circonscription par circonscription. Et les résultats définitifs sont attendus demain. Plus de détails sur l'enjeu des élections avec Yakuba Ouedraogo.
Plus de 930 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a commencé hier, dès la fermeture de quelques 2 200 bureaux de vote. Certains électeurs ont continué de faire la queue dans la soirée pour pouvoir voter. Selon le porte-parole de la commission électorale, Ozupile Maroba, cela pourrait entraîner des retards dans le comptage des voix. Ce pays d'Afrique australe est agité par une guerre fratricide entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur. Ian Kama, qui a dirigé le pays de 2008 à 2018, accuse son successeur Mogwetsi Masisi de dérive autoritaire. Kama a quitté le Parti démocratique du Botswana, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1966. Kama a appelé à voter pour l'opposition et cette fronde fragilise la position du parti au pouvoir, qui avait réalisé son plus mauvais score aux élections de 2014 en tombant sous la barre des 50% des voix.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections au Mozambique, c'est à la fin du mois que seront annoncés les résultats complets des élections générales du 15 octobre, selon la Commission électorale nationale. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Paolo Quinica, porte-parole de la Commission électorale nationale, a annoncé que les résultats seront publiés le 30 de ce mois. Après le vote du 15 octobre, pour élire le président, les députés et les assemblées provinciales, des missions d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités. L'Arenamo, principal parti d'opposition, accuse le régime de méga-fraude et rejette d'avance les résultats. La Commission électorale a publié sur son site des résultats partiels. Philippe Nyusi serait réélu avec qu'à plus de 70% des voix, loin devant son rival Ossoufou Momad, crédité autour de 21%. Le Frelimo décrochait 179 sur les 250 sièges du Parlement, contre 62 à la Renamo et 8 au mouvement démocratique du Mozambique. Le gouvernement et la Renamo ex-rébellion ont signé en août un accord de paix censé mettre fin à leurs affrontements récurrents depuis plus de 40 ans. La campagne électorale a ravivé les tensions entre les deux camps.
En Tunisie, investiture mercredi du président Kais Saied à la tête de l'État. Respect de la loi, égalité envers tous les Tunisiens, entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes, lutte antiterroriste. Le nouveau chef de l'État a annoncé ses priorités hier devant le Parlement à Tunis. Pour faire le point sur les défis qui attendent le président Saied, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef de Doun's Voices à Tunis.
Kais Saied a parlé d'instaurer un nouveau rapport entre gouvernants et gouvernés et d'essayer d'une manière concrète de réaliser les objectifs de la révolution. Pour lui, il est grand temps d'entendre et d'agir pour que ces promesses du peuple, ses vœux, ses souhaits de ce peuple en la dignité et en la liberté soient exaucés une fois qu'il est là à la tête de la République.
Justement, quels seront les premiers grands chantiers du nouveau chef de l'État?
Ben, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le régime tunisien étant un régime parlementaire, donc le rôle du président de la République n'est pas vraiment très large. Il a précisément des prérogatives d'ordre diplomatique et sécuritaire. Il peut donner des recommandations en termes socio-économiques, mais ça s'arrête là.
Ennahda, vainqueur des législatives, veut un premier ministre issu de ce parti d'inspiration islamiste. Vous venez de parler de la marge de manœuvre du chef de l'État. Alors comment ça va se passer? Comment va-t-il composer avec Ennahda, le premier ministre qui va être nommé, et les autres partis au Parlement?
Je pense qu'il n'y aura aucun problème entre la présidence et les partis parlementaires. Le problème, c'est plutôt au niveau d'Ennahda. Ennahda n'a réuni que 52 sièges sur les 109 requis pour la majorité. Il y a 217 au Parlement, il faut 109 pour la majorité. Ennahda n'a que 52. C'est à Ennahda de travailler pour obtenir une majorité. Mais le président va composer avec le nom qu'on va lui présenter par Ennahda comme chef de gouvernement.
Il appelle les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme pour mettre fin, dit-il, à toutes ses racines et ses causes. La lutte antiterroriste, est-ce un défi que les Tunisiens veulent voir relever rapidement?
La liberté de la femme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté, oui, c'est des questions pour lui qui sont d'extrême importance. Oui, la lutte contre le terrorisme est parmi les défis majeurs en Tunisie. Nous avons progressé en ces termes. Le danger est toujours là, mais il n'est plus aussi pressant, il n'est plus dans la ville. Il reste encore quelques maquis dans certaines montagnes de l'ouest tunisien sur les frontières algériennes, mais en général, la lutte, nous devons rester vigilants, la Tunisie doit rester vigilante contre le terrorisme. Le président l'a assuré et il a lui aussi, d'ailleurs ça a suscité des applaudissements dans la salle lorsqu'il a parlé de maintien du cap de cette lutte contre le terrorisme.
Mourad Selami, rédacteur en chef de Dunes Voices, joint dans la capitale tunisienne par Jacques Aristide. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.